Salut tout le monde, on se retrouve sur J'ai des infos avec Pavina.
Salut Naïma, alors on va parler de quoi aujourd'hui ?
Ben, tu sais, il existe plusieurs échanges marchands, certains légaux et d'autres non.
Ah ouais ? Comme quoi ?
Par exemple, en médecine, ou même la drogue, ce sont des échanges qui ne sont pas communs.
C'est surprenant, tu as des exemples ?
Oui, en France, il n'y a pas assez de dons de sang alors qu'ils permettent de soigner 1 million de malades. Faut-il rémunérer les donneurs ? C'est ce que nous avons demandé à Eve et Camille.
En Allemagne, en Chine ou aux États-Unis, le don du sang est rémunéré autour de 50 euros la donation, ce qui amène à se demander si le don du sang doit être rémunéré dans le monde entier. En France, aucun donneur n'est rémunéré légalement. Les établissements médicaux et de distribution du sang font donc face à de grosses difficultés, des insuffisances. Pour cela, nous nous demandons s'il faut améliorer le niveau d'éducation, ce qui permettrait peut-être d'avoir une population plus altruiste pour un don du sang plus important.
Afin que plus de monde adhère au don du sang, une des solutions serait bien sûr de rémunérer chaque donation, comme certains pays le font déjà, tels que l'Allemagne ou les États-Unis. Étant donné que la population de France et plus globalement du monde est de moins en moins altruiste, rendre le don rémunéré pousserait forcément plus de monde à donner. Les gens ont besoin d'une contrepartie pour donner. Peu veulent encore offrir leur sang juste pour le plaisir d'aider d'autres qui en ont besoin. De plus, le don gratuit coûte paradoxalement plus cher que le don rémunéré.
En effet, avec les bénévoles, la collecte est plus difficile à organiser. Elle nécessite des campagnes de communication, ce qui peut être long. Elle demande de l'organisation, ce qui provoque bien évidemment des coûts plus élevés. Donc on peut en conclure que l'Hexagone est moins compétitif pour la vente de produits dérivés du sang que les pays où le don est rémunéré. En effet, 40% des médicaments dérivés du sang achetés à d'autres pays pour les hôpitaux français sont composés de sang de donneurs rémunérés, c'est-à-dire d'étrangers.
Oui, par exemple, une clinique de Stuttgart en Allemagne offre environ 23 euros par don. Et aux États-Unis, il est possible de vendre son sang jusqu'à 50 euros. Cela provoque une hausse des volontaires au don, mais cette solution assez attractive n'est tout de même pas la meilleure des solutions.
En effet, d'autre part, le don rémunéré n'est pas une bonne issue, même si cela provoquerait certainement plus de dons. Le principe d'un don est qu'il doit être volontaire, libre, gratuit, individuel et anonyme. Et non tout l'inverse. S'il est payé, le don prendrait plus un sens industriel. Rémunérer plus de personnes donnerait, mais s'il donne trop, le sang serait de mauvaise qualité. Il manquerait de nutriments. Il y aurait des conséquences néfastes pour les transfusés qui seraient peut-être contaminés. De plus, n'importe qui donnerait aurait des problèmes. Les malades, il pourrait y avoir des drogués, des tatoués, ce qui altérerait le sang. On aurait moins de contrôle et plus de problèmes.
On remarque une population de plus en plus égoïste, un monde globalisé, ce qui provoque bien sûr un manque de dons. Il faudrait avant tout une amélioration globale des individus. En effet, il faudrait améliorer leur niveau d'éducation pour des dons plus importants et plus volontaires. Ce doit être un don réalisé dans un esprit désintéressé, au bénéfice d'un inconnu ou d'un étranger. Dès le plus jeune âge, à l'école par exemple, on devrait inculquer les valeurs du partage, de l'aide à l'autre, pour que la population soit plus altruiste que maintenant. Le mode et le niveau d'éducation sont donc des facteurs très importants pour le don. Plus de monde donnerait si on leur disait dès le jeune âge ce qu'un simple don peut provoquer, peut aider.
Donc, selon certaines conditions et selon le point de vue de chacun, le don doit être rémunéré pour les personnes, ceux qui est prêt à donner leur sang pour des besoins d'argent. Et au fur et à mesure, le sang à force de don serait de mauvaise qualité. Donc, pour d'autres personnes, le don doit être, comme son nom l'indique, doit rester gratuit et ainsi éviter l'industrie et les trafics. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous pour ou contre le don rémunéré ?
Cela est bien, mais c'est censé être volontaire. Mais c'est pareil pour les dons d'organes. Paraît-il qu'il n'y a pas assez de donneurs en France. Alors qu'il y a 20 000 demandes, seul un quart d'entre elles sont prises en charge. On se demande alors s'ils doivent aussi le rémunérer contre cette pénurie. Garance et Yaël ont mené l'enquête.
Face à une demande de dons d'organes de plus en plus importante, la pénurie prend peu à peu de l'ampleur. Bien qu'il y ait déjà eu 13 700 transplantations il y a peu, 65 000 malades sont encore en attente d'un rein.
Le rein est en effet l'organe le plus demandé, mais il est aussi le plus cher. Doit-on réduire cette demande par la rémunération du don d'organes ? C'est sur quoi nous allons pencher aujourd'hui. Mais alors, Garance, c'est un problème ?
Oui, c'est un problème parce qu'il y a une grave pénurie d'organes. Beaucoup de personnes sont disposées à une transplantation, mais soit la famille n'autorise pas en cas de mort cérébrale parce qu'ils ne sont pas prêts à donner les organes du défunt, soit les gens ne sont pas assez généreux ou alors pas compatibles. Et donc le problème, Yael, c'est qu'il y a 3500 morts par an car ils ne sont pas transplantés aux États-Unis.
Et suite à ça, l'économiste américain Gary Baker a proposé une solution, donc c'est-à-dire payer les donneurs d'organes. Cela donc pourrait convaincre plus de personnes et le nombre de transplantations pourrait donc augmenter. Après, cette pratique est autorisée en Inde et en Iran. Et selon Baker et Elias, le rein serait égal à 15 200 dollars.
Donc cette proposition, elle a choqué, mais c'est vrai qu'elle suit une tradition économique, donc celle d'Adam Smith, qui disait qu'il faut plus solliciter l'intérêt d'une personne plutôt que son altruisme. Et on remarque que le marché fonctionne plus ou moins comme ça aujourd'hui, car satisfaire les besoins des autres sans faire appel à la vertu, c'est un principe qu'on retrouve beaucoup avec la main invisible, par exemple.
Et ça a créé une grosse polémique aux États-Unis, parce que ça a été jugé immoral. Le fait de négocier le corps humain comme un objet, ça répugne les gens. Et donc, c'est aussi le cas pour l'assurance vie, c'est le principe de donner un prix à la vie humaine. Et cela a donc été contesté, mais les assureurs ont gagné.
Et il y a un autre argument majeur qui revient pour contester cette proposition, c'est celui de l'altruisme. Car c'est vrai que quand on pense au don, on pense à une bonne action. Du coup, si on enlève ce principe, ça peut aussi dissuader les gens. Car un individu, il se sent altruiste quand il fait un don. Donc ça pourrait dissuader une personne qui voulait faire une démarche vertueuse ou qui voulait faire un don pour se sentir plus altruiste.
Et pourtant, le don de sang et de sperme est, lui, rémunéré aux États-Unis parce qu'il monte jusqu'à 50 dollars pour le sang et 140 dollars pour le sperme. Et c'est une pratique plus tolérée, alors que c'est assez paradoxal car certains tolèrent ça, mais ne se voient pas vendre un rein.
Et vendre un rein, ça paraît pourtant bien pour les adeptes du marché noir au Bangladesh. Donc au Bangladesh, le problème, c'est que le don n'est autorisé qu'entre les proches et ça entraîne une très forte pénurie. Et donc, il y a eu un développement de la rémunération du don d'organes sur le marché noir, où un rein coûte environ 150 000 dollars. Donc, c'est vrai que ça peut avantager des malades désespérés et des donneurs pour sortir de la pauvreté, mais c'est quand même illégal. Et le problème aussi, c'est que les expérimentés, ils parviennent à convaincre des hésitants. Et Monir, un spécialiste de la question, déclare que depuis 2005, 200 personnes y ont eu recours. Mais c'est des transplantations qui sont peu élaborées car 12 personnes sont portées disparues et soupçonnées d'avoir eu recours à une opération.
Mais de ce fait, un nouveau problème se pose. Le don d'organes rémunérés peut amener à laisser les plus démunis devenir le marché des riches. Et on revient donc au principe remis en question, donc l'altruisme, le don sur la base du volontariat et ne pas vendre le corps.
Et bien que la pénurie gagne du terrain, il y a une autre solution. Donc maintenant, quand un individu meurt, les organes sont obligatoirement pris, sauf si y a une déclaration, si on fait une déclaration qu'on ne veut pas les donner. Et c'est déjà une petite avancée, mais elle est plus acceptable que la vente d'un rein pour les Français.
Et le marché pourrait donc être déstabilisé par cette pratique, car cela remet en question les principes humains.
Dans certains pays, c'est les traitements qui sont inaccessibles, comme celui pour le sida par exemple, car ils sont trop chers. Olivia et Hugo se sont intéressés à la copie des médicaments brevetés.
Bonjour Olivia, je suis sûr que tu as récemment entendu parler de polémiques autour de certains médicaments, que ce soit dans les pays développés ou non, on ne fait qu'en parler.
Oui, bonjour Hugo. Alors oui, effectivement, mais est-ce que tu sais où est le véritable problème lorsqu'on évoque le marché des médicaments ? Il s'agit en fait des règles qui encadrent les échanges et surtout les règles formelles et légales créées par l'État.
Effectivement, pour protéger l'inventeur ou le créateur d'une propriété industrielle, comme les médicaments, un brevet d'invention est déposé. Après cela, il est impossible d'établir une copie. Les brevets semblent alors légitimes, sensés et raisonnables.
Alors maintenant, si on se concentre sur une seule maladie, le sida par exemple, dans seulement certains pays, ceux qui sont en développement, c'est-à-dire ceux où l'on observe des modifications sociales et économiques qui sont plus en sous-développement, et que l'on tient compte du fait que le prix élevé des médicaments empêche certains de se soigner, les brevets peuvent donc paraître injustes et légèrement déraisonnables.
On peut donc se demander quelle est la position que doit prendre l'État des pays en développement au niveau de l'accès des médicaments contre le sida.
Alors premièrement, il faut tout de même se rappeler que la loi est pour le moment contre la création de copies. Et si un changement doit se faire, sur le plan pénal, c'est assez long, ça prend du temps. Donc la seule solution, je pense que c'est d'attendre, même si les modalités diffèrent selon le brevet. C'est en moyenne assez court, environ 20 ans.
En plus de cela, du temps, il faut en laisser aux chercheurs. Les recherches coûtant très cher, il faut que les médicaments soient rentables. Il faut du temps, pour que les chercheurs remboursent tous leurs emprunts.
En parlant des chercheurs, justement, ça serait un peu injuste que le travail de leur recherche, qui s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars, dans le cas de la maladie du sida, soit exploité, parce qu'ils passent vraiment beaucoup de temps sur leur recherche, et donc ça serait dommage.
C'est vrai, puisqu'en créant des copies, un laboratoire va amasser des bénéfices sans devoir se soucier de la recherche.
Oui, mais est-ce que c'est si grave ? Pour financer ces recherches, est-ce que cela ne serait pas mieux de compter un peu sur le don des citoyens, par exemple ?
On peut, mais seulement en partie. Le sida, lui, ne conquit pas beaucoup de personnes lorsqu'on le compare à d'autres maladies. As-tu déjà entendu parler du sidaton ?
Tu veux parler du téléthon ? Parce que le sidaton, ça me dit rien du tout.
Et non. Ce que tu dis est bien la preuve que l'on ne peut pas compter complètement sur les dons et que les brevets ont leur importance. Le sidaton ne rapporte rien et reste inconnu par rapport à d'autres, comme le téléthon.
C'est vrai. En plus de cela, les brevets d'invention sont réellement présents partout dans le monde entier. Depuis 2005, il n'y a plus d'exception juridique. Avant cette date, en Inde, un pays qui est considéré comme un pays en développement, la copie de médicaments était autorisée, mais maintenant plus du tout.
En effet, le Parlement indien a voté. L'Inde n'est plus considérée comme un pays d'irréductible gaulois, donc la valorisation par l'État des laboratoires qui ont déposé des brevets dans tout type de pays semble évidente.
Alors si on s'intéresse maintenant à d'autres pays en développement, comme le Brésil, le Chili, le Nigeria, le Vietnam, Cuba ou encore la Chine, enfin bref, il ne faut pas se contenter d'un seul pays, mais il faut tenir compte de tous, évidemment.
C'est vrai, il faut se rappeler que les PED représentent 80% de la population mondiale. C'est une part qu'il ne faut pas négliger de par sa taille. Cependant, même si elle se développe, cette partie de la population n'a pas accès à tous ses besoins, même ceux primaires comme la santé. En effet, cette partie de la population ne représente que 10% des ventes mondiales des produits pharmaceutiques.
Oui, en plus de cela, le sida est très présent dans les pays en développement. Les chiffres donnent le tournis en quelque sorte. Au Botswana, plus de 37% de la population est séropositive, ce qui est un taux quand même énorme et un taux record. Et lorsqu'on se tourne vers l'espérance de vie, c'est encore pire. Elle est passée de 64 ans en 1998 à moins de 40 ans en 2010, ce qui est une baisse énorme en un peu plus de 10 ans.
Alors pourquoi est-ce autant élevé ? Tout d'abord à cause d'un défaut d'éducation. En plus de cela, les pratiques liées à la religion ne sont pas forcément en accord avec la contraception, qui reste la seule solution pour se protéger de maladies comme le sida.
Oui, en plus, les habitants de pays en développement n'ont pas les moyens de s'offrir des préservatifs, par exemple. Et une fois qu'il est trop tard, ils ne peuvent encore moins s'offrir les médicaments qui sont chers pour se soigner, puisqu'il faut rentabiliser les recherches des laboratoires.
Le résultat, une réduction de l'attractivité du pays, donc également du développement. En prenant compte de toutes ces variables, on ne peut qu'admettre qu'il faut absolument créer une alternative pour que les choses changent. L'État doit faire une exception pour les pays en développement, ce qui permettrait aux habitants de ces derniers de se soigner.
En plus de l'aspect sanitaire, l'économie, le développement des pays, l'attractivité, tous ces aspects s'en trouveraient gratifiés et bonifiés. Une copie, certes, déplairait aux grands laboratoires qui ont eu la chance d'être basés dans un pays riche et qui ne manquent pas de ressources. Mais quand la vie de milliers de personnes est en jeu, il faut alors accepter de faire des dérogations.
Aujourd'hui, même un pays stable peut être déstabilisé, comme les États-Unis, où on a donné le monopole à un laboratoire de médicaments contre le sida. Ayant le monopole, cela a été facile pour lui de devenir un price maker et donc de multiplier le prix de ses médicaments par 55 en une seule nuit. Le pays en est donc sorti bouleversé économiquement, puisque le marché s'est retrouvé déstabilisé. On a même vu naître de nombreuses vagues d'indignation de la part d'Hillary Clinton.
Le laboratoire ayant déposé un brevet avait la loi de son côté. Mais quand on voit les dégâts provoqués dans un pays riche et développé, on ne peut que les imaginer dans un pays qui n'est qu'en voie de développement. C'est une nouvelle preuve que les brevets d'invention peuvent dangereusement fragiliser des pays entiers.
Mais alors, pourquoi ne pas installer un nouveau système dirigé par l'État pour éradiquer le sida dans les pays en développement ?
Oui, il est vrai, l'objectif premier étant de baisser les prix de vente des médicaments, l'État pourrait permettre à un nombre plus élevé de laboratoires de produire plus, par exemple. En général, on retient qu'il faudrait faire évoluer les règles encadrant ce marché, l'idée n'étant pas supprimer les brevets d'invention, puisqu'ils ont leur utilité aussi, mais de contrôler grâce à l'État la production des médicaments contre le sida.
On en connaît plus maintenant. Tu sais ce que c'est une mère porteuse ? On appelle ça aussi la gestation pour autrui, mais c'est interdit en France. Mais parfois, dans les pays en développement, s'ils le font, c'est pour gagner de l'argent. Doit-il devenir objet de commerce ? Un reportage dont Dorian et Thomas y sont intéressés.
La société française est en constante évolution. Ce qui semblait irréalisable hier peut devenir réel aujourd'hui. Qui aurait pensé pendant le baby boom que la fertilité chuterait à moins de 2 enfants par femme ?
Et qui aurait bien pu penser que 35 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, les couples concernés puissent se marier. Ces deux évolutions marquantes mettent la question de la GPA au centre des débats, puisque, en plus de cela, de plus en plus de personnes risquent d'être dans l'incapacité de procréer naturellement en vue de la terrifiante augmentation du taux d'infertilité.
Mais en plus, parce que les homosexuels revendiquent aujourd'hui le droit de fonder une famille et d'avoir des enfants. Or, la France, contrairement à de nombreux pays, dont nos voisins anglais, interdit toujours la GPA.
Attention, légaliser la GPA ne veut pas dire légaliser n'importe quoi. Les Anglais, ainsi, l'ont légalisée et l'ont strictement encadrée. C'est la raison pour laquelle elle est toujours autorisée. Seule la GPA altruiste est tolérée.
Comme la France va être confrontée aux mêmes évolutions que ses partenaires, on anticipe en effet une baisse de la fertilité due notamment à la dégradation de l'environnement, à une alimentation malsaine ou encore à une utilisation trop précoce du téléphone.
De plus, comme l'a démontré le débat qui a eu lieu lors du vote de la loi Taubira, les couples homosexuels vont, après avoir obtenu le droit de fonder une famille, revendiquer ce droit d'être parents, de pouvoir être parents. Dans ce cas-là, il devient impératif de légiférer.
Cela sera d'autant plus nécessaire que l'on constate aujourd'hui que de plus en plus de couples homosexuels se dirigent vers les pays anglo-saxons afin de trouver des femmes qui sont d'accord pour une GPA rémunérée.
Ah, ceci pose de véritables questions d'éthique, mais aussi des questions de légalité, puisque ces couples sont ici dans l'illégalité. Dès lors, une évolution de la législation sur la GPA représenterait un progrès social pour la famille, puisqu'on offrirait à chacun la chance d'avoir un enfant.
La science a fait d'énormes progrès et la GPA permet de manière très efficace qu'une femme porte un enfant pour une autre femme. Et se priver d'une telle évolution serait du gâchis.
Mais cependant, l'encadrement de la GPA doit être strict. Il est impératif qu'elle reste altruiste et non rémunérée, contrairement aux États-Unis.
Si la femme prête son utérus, ce n'est pas pour de l'argent. Ça doit être pour une motivation altruiste, c'est-à-dire parce qu'elle a de la compassion pour un couple qui s'aime et qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement. La GPA autorisée ne doit donc pas être rémunérée, car c'est humainement très discutable.
Elle entraînerait une marchandisation du corps. Or, ce dernier n'a rien d'un objet et cela serait inenvisageable. De plus, on pourrait voir comme en Inde une utilisation des femmes pauvres et dépendantes par les plus riches.
Il n'en reste pas moins que les dérives peuvent être nombreuses. En effet, dans une société de plus en plus individuelle, où l'échange marchand occupe une place centrale, combien de femmes seraient prêtes à opérer une GPA non rémunérée?
Et ce, d'autant plus que la gestation d'un enfant représente pour ces femmes un gros handicap dans leur carrière professionnelle. Et ce n'est pas sans effet sur la santé. Dès lors, comment sensibiliser les femmes qui veulent opérer un geste sans qu'elles soient rémunérées autrement que symboliquement?
La question n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, une législation est impérative car aujourd'hui, de plus en plus de couples ont recours à la GPA rémunérée en abusant de la situation des femmes confrontées à la pauvreté.
Pour plein de causes, l'argent est ce qui permet de remettre des lois en cause. En Amérique, par exemple, 5% des Américains ont légalement accès au cannabis, rapportant 1 milliard de dollars à l'État. C'est Yann et Abigail qui vont nous éclaircir le sujet.
Bonjour. Le 8 novembre n'était en effet pas seulement le jour où les Américains choisissaient leur nouveau président. En Californie, dans l'Arizona, le Maine, le Massachusetts et le Nevada, les électeurs ont dû aussi décider par référendum d'autoriser ou non le cannabis à des fins récréatives. Dans le Dakota du Nord, en Floride, dans le Montana et l'Arkansas en revanche, le référendum portait sur son usage médicinal. Nous savons qu'aujourd'hui, environ 5% de la population américaine a accès à la consommation récréative de cannabis, selon les chiffres du Times. Les 5 États concernés par ce vote étant favorables, près du quart de la population aura désormais accès librement au cannabis. Néanmoins, si l'issue du référendum est positive, la prohibition à l'échelle fédérale ne sera plus tenable puisqu'un cinquième des États américains pratiquera alors un commerce légal de cannabis récréatif. La légalisation progressive, État par État, poussera donc le gouvernement fédéral à se prononcer sur la question, comme il y a été poussé sur d'autres, comme par exemple le mariage homosexuel adopté à l'échelle fédérale en 2015, plusieurs années après l'adoption par les États dits pionniers. Mais la légalisation du cannabis pose-t-elle majoritairement des problèmes ou des avantages au niveau économique et social?
La légalisation du cannabis a des avantages, car on remarque qu'aux États-Unis, la légalisation de celui-ci à des fins récréatives dans 5 États est une véritable chance économique. Le Colorado a des retombées économiques. Le Colorado, qui a légalisé son usage récréatif en 2012, et dont la vente a commencé le 1er janvier 2014, a des retombées économiques importantes. En effet, les distributeurs légaux au Colorado ont vendu pour près de 1 milliard de dollars de cannabis en 2015, ce qui a généré un excédent de taxes d'environ 110 millions de dollars sur l'année fiscale, c'est-à-dire de juillet 2014 à juin 2015. Cela représente pour l'État environ le double de ce que rapportent les ventes d'alcool.
Certes, mais le cannabis reste tout de même une drogue qui provoque une certaine forme de dépendance. De plus, le nombre de fumeurs de cannabis n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs années. Il y a également un risque pour ces personnes de passer à des drogues plus fortes, puisque à terme, les effets du cannabis sont moins importants. Dans ce cas-là, les conséquences sont réellement désastreuses.
Cependant, l'argent que rapporte la vente de cannabis à l'État sert à financer des centres de désintoxication, ce qui permet de mettre fin aux addictions. De plus, le cannabis n'est pas plus nocif que le tabac ou encore l'alcool. Il suffit donc d'encadrer correctement sa consommation afin aussi de limiter ses addictions et au final d'empêcher la consommation de drogues plus fortes.
Les problèmes posés ne sont pas seulement liés à l'addiction. Il y a aussi le cas du mélange alcool-cannabis qui peut se révéler très dangereux pour la santé. En effet, un joint correspond à une dose barre d'alcool. Cependant, les personnes ne se rendent pas compte de l'accumulation de produits dans leur corps. Les risques d'accident augmentent donc.
De toute manière, la politique de répression, comme tu le vois en France par exemple, est un échec total. À quoi cela sert donc de garder des drogues inutiles ?
En effet, c'est pour cela que plus d'un Français sur deux est d'accord pour que les candidats aux élections présidentielles en France abordent la question du cannabis. Certains d'entre eux veulent justement changer cette loi. Mais changer une loi veut-elle dire la faire disparaître ?
Il est fort probable que légaliser le cannabis permette de couper les économies souterraines, ce qui mettrait fin aux violences parfois excessives créées par ce trafic. Cela améliorerait donc la sécurité en France. De plus, cela créerait entre 20 000 et 40 000 emplois en France, selon Jean-Pierre Kops, ce qui redresserait tout de même un minimum la courbe du chômage. Ces effets ne sont pas seulement valables pour la France, mais aussi pour les États-Unis.
Les avis ne peuvent être que mitigés. En effet, il y a presque autant d'avantages que d'inconvénients à la légalisation du cannabis. On remarque tout de même des avantages aussi bien économiques que sociaux, même s'il ne faut pas oublier les problèmes qu'incombe le cannabis, car ceux-ci restent très importants et pénalisants.
C'est intéressant. Et tu sais ce que c'est le génome humain ?
Non, mais tu vas me dire.
C'est l'ensemble des informations génétiques portées par l'ADN. C'est un peu comme une carte d'identité de notre être. Et depuis quelques temps, certains veulent se l'approprier. Faut-il le breveter ? Un reportage mené par Emma et Léa.
Le brevet, c'est le droit de propriété qui a pour fonction de motiver les inventeurs et les innovateurs afin qu'ils lancent des recherches qui sont à la fois coûteuses et risquées. La probabilité de rentrer dans ces fonds est en effet faible. Il faut donc en contrepartie que celui qui opère des dépenses en recherche-développement coûteuses puisse, s'il dépose un brevet, en retirer les bénéfices sur une période suffisamment longue. Il dispose alors d'une situation de monopole qui lui permet de rentabiliser sa découverte. La question est, alors peut-on breveter ? On sait que non. Ainsi, le principe de l'impossibilité de breveter des séquences de gènes humains en tant que tels apparaît aujourd'hui acquis des deux côtés de l'Atlantique.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand on me demande si une invention de domaine médical peut être brevetée, je répondrai que oui, car les brevets ont justement pour fonction d'inciter les chercheurs à développer de nouvelles technologies et ils font donc faire progresser la science. La possibilité de breveter une découverte va permettre à l'entreprise de mobiliser les capitaux qui lui seront apportés par des actionnaires qui sont seulement motivés par la perspective de percevoir des dividendes très élevés si l'entreprise opère une découverte fondamentale qu'elle brevette.
Ce n'est pas complètement vrai. On peut aussi dire que les brevets empêchent la recherche d'avancer, car ils empêchent le partage des connaissances scientifiques. Ainsi, ils se limitent à la pratique des tests génétiques à une seule compagnie qui a déposé le brevet et entravent les capacités d'innovation d'autres entreprises qui pourraient découvrir de nouveaux médicaments et donc améliorer les perspectives de survie des malades.
Mais par exemple, si l'entreprise Myriad Genetics a opéré des recherches qui lui ont permis de pouvoir contribuer à une réelle avancée technologique dans le domaine du dépistage des cancers, c'est parce que l'entreprise avait pu lever des capitaux qui lui permettant de financer ses dépenses de recherche particulièrement élevées. Il est donc tout à fait logique que l'entreprise soit la seule à pouvoir pratiquer des tests de dépistage des cancers et de l'ovaire du sein. C'est certes une situation de monopole sur le marché qui se traduit par une augmentation du prix, mais ne vaut-il mieux pas un prix élevé que pas de découverte ? Ne peut-on pas dire que la santé n'a pas de prix ?
Justement, je ne suis pas d'accord. Ne serait-ce que par rapport au monopole qui crée une concurrence déloyale entre les entreprises de recherche et donc est un frein qui entrave le développement des découvertes scientifiques, mais surtout qui empêche certains malades, en particulier ceux qui sont issus des pays, pour vous, en développement, qui ne disposent pas de moyens suffisants pour pouvoir financer l'acquisition des médicaments. Enfin, je considère que certaines découvertes brevetées vont à l'encontre de l'éthique. Je pense ici plus particulièrement au brevetage de l'ADN.
Le brevetage de l'ADN humain a été ouvert pour permettre aux sociétés de capitaliser leurs brevets. C'est une distribution de licences d'exploitation payante ou pas. Ainsi, grâce aux recherches opérées, de nouvelles perspectives ont été ouvertes et des maladies qui paraissaient hier incurables sont aujourd'hui en voie de traitement.
Mais vous ne répondez pas à ma critique. L'ADN humain est un produit de la nature et il ne doit pas être breveté. On peut certes opérer des recherches sur l'ADN pour faire progresser la science, donc guérir des malades incurables, mais il faut imposer des garde-fous qui sont au nombre de deux. D'abord, il faut partager les découvertes et surtout, il faut les encadrer car une manipulation génétique opérée peut avoir des répercussions très néfastes sur l'espèce humaine.
Certes, vous avez raison, l'éthique doit être prise en compte. Mais le but des laboratoires n'est en aucun cas de sélectionner les gènes pour créer une pseudo-race supérieure. Notre seule ambition est de découvrir de nouveaux médicaments qui prolongeront la vie humaine. Pour cela, le meilleur moyen est de laisser les entreprises opérer des recherches en leur donnant des incitations financières par le brevet.
Je vois bien que nous avons du mal à nous mettre d'accord. Je pense, pour conclure, qu'il est urgent que les États légifèrent sur les questions des gènes, mais aussi qu'une législation internationale encadre strictement les recherches, parce que l'on peut penser qu'aujourd'hui, dans certains pays, des manipulations génétiques sont des gens dont on ne maîtrise pas complètement les conséquences. Enfin, on finira sur un débat sur le fait de breveter la nature, c'est-à-dire de se l'approprier sans qu'il puisse être copié. Avec plusieurs acteurs qui pourront répondre à cette question, tels que la représentante d'un laboratoire pharmaceutique. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Un représentant d'une tribu brésilienne. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Et pour terminer, une représentante d'une association de malades. Eve.
Bonjour. Donc ma mission est de promouvoir et de défendre les droits des malades au niveau de la santé et des services sociaux afin d'améliorer la qualité des services et de l'accessibilité. Les personnes malades doivent avoir tous accès, selon moi, aux services de santé. C'est une question que l'on ne peut pas transgresser, quoi. Les malades doivent être bien soignés et respectés dans leur dignité. Il faut des prix accessibles à tous.
On va demander à Hugo de nous raconter son histoire.
Raconter mon histoire ?
Oui.
Alors moi, je suis là pour savoir auprès de mes deux locutrices pourquoi on m'a spoilé de mes droits sur la nature, qui m'est primordial dans mon train de vie quotidien. Et donner quelques idées qui me sont chères pour démordre de mon avis. Voilà.
Et Chloé, vous avez quelque chose à dire pour commencer ?
Moi, je suis bien sûr pour que les médicaments soient accessibles pour tous les malades, mais il faut quand même que le prix soit accessible. Je comprends qu'on veuille aussi payer les plantes avec lesquelles on fait les médicaments. Il faut que ça convienne à tout le monde.
Moi, si je pouvais commencer, je voudrais demander à vous, Madame Eve, qui est la représentante d'un laboratoire pharmaceutique, et Madame Chloé, qui est la représentante d'une association de malades.
C'est l'inverse.
L'inverse, je pense pas.
Je voudrais vous demander, car
j'ai de forts doutes sur vos connaissances, si vous savez ce que c'est exactement un brevet et à partir de quel moment on peut breveter quelque chose. Je vais vous donner la réponse à ma question. Alors, pour information, un brevet, c'est un titre de propriété industrielle. Donc, contrairement à ce cas présent où l'on parle de la nature qui est bel et bien, à moins que je me trompe fortement, un titre naturel. Et donc, ce brevet procure à son inventeur une durée illimitée de 20 ans à peu près d'utilisation personnelle. Alors, je ne pense pas que vous soyez l'inventeur toutes les deux de la nature. Donc, voilà, je pense que la nature est non brevetable de mon point de vue.
Chloé, vous pensez que c'est brevetable ?
Oui, je pense que ça peut être brevetable, mais pas énormément non plus. La nature, on doit la valoriser pour tout ce qu'elle nous apporte, mais il faut aussi que ça reste dans le raisonnable.
Oui, mais votre part de profit est quand même assez élevée hein, sur les médicaments que vous rémunérez pas totalement les biens que vous achetez.
Ce qui coûte très cher aussi dans la création de médicaments, c'est aussi les recherches qu'on doit faire pour créer ce médicament et récupérer les molécules des plantes et du médicament.
Mais vous êtes consciente que si vous faites des médicaments très élevés, vous n'aurez plus de malades qui pourront se payer vos médicaments. Donc moi, je pense qu'il faudrait peut-être revoir votre part de profit.
Oui, mais je maintiens que pour créer un médicament, c'est des années de travail et des années de recherche et un coût quand même très élevé.
Et vous êtes d'accord qu'elle vous paye moins ? Vos médicaments
Je pense qu'il faudrait nous payer à la même hauteur que l'on paye pour pouvoir utiliser les plantes que l'on consomme, je pense.
Mais à ce moment-là, c'est les malades qui ne vont pas être contents parce que le prix des médicaments va aussi encore plus s'élever si le prix des plantes est encore plus élevé.
Oui, mais il ne faut pas que le milieu soit altéré, vous en êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec moi que si, par exemple, vous achetez des plantes à bas prix et que du coup, vous n'avez pas à conserver et à préserver votre milieu en utilisant les bons outils parce que vous n'avez pas assez d'argent pour conserver votre milieu, ce n'est pas possible pour vous.
Ah oui, effectivement, il faudrait que cette dame trouve un juste milieu sur les prix qu'elle nous verse parce qu'on a besoin de vivre également. Et si elle nous prive de nos droits sur la nature, elle est obligée de nous verser des fonds qui sont égalitaires.
Et vous, pharmacienne, vous voulez faire des profits, mais moi, je veux cet argent pour les malades. Quelle est la chose la plus importante pour vous ? Votre profit ou les malades, nos auditeurs ?
C'est tout le monde.
C'est tout le monde, c'est-à-dire ?
Je veux que les malades soient soignés, qu'ils vivent bien, qu'ils soient au meilleur de leur forme. Mais je veux aussi faire du profit, comme tout le monde ici, je pense.
Oui, mais je pense que la part de profit empêche que les malades aient accès à tous les médicaments. Ils n'ont accès qu'à une petite part de médicaments, tellement les prix sont exorbitants. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Le daraprime, utilisé contre le traitement de la toxoplasmose, qui est une maladie infectieuse due à une maladie, ce médicament a vu son prix bondir. Il est passé de 12 euros à 673 euros du jour au lendemain. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ?
Oui, j'en ai bien conscience, mais derrière ce médicament, il y a encore plein de recherches qui sont faites. Et les plantes et les molécules pour le créer doivent valoir cher.
Comment vous pouvez expliquer cette augmentation soudaine du prix ? On peut demander à Eve, peut-être ?
Oui, moi, je pense que peut-être c'est dû aux chercheurs. Ils ont dû peut-être investir pour plus de chercheurs. Ou peut-être que, il y a eu un problème au niveau de recherche. Ils n'ont peut-être pas bien avancé. Il y a besoin de plus de matériel, plus de mécanique. Et donc, du coup, d'investir dans plus de machines, ce qui fait que pour pouvoir investir, il a fallu récolter plus de fonds et donc vendre plus cher. Mais ce n'est peut-être pas directement la bonne solution d'augmenter comme ça les prix, parce que ça va se répercuter sur les achats des médicaments.
Et si jamais ils n'ont pas le choix d'augmenter les prix ?
Si ils n'ont pas le choix, ça veut dire que il y a soit les malades ou soit les vendeurs de plantes qui vont être impactés. Et les médicaments vont moins être vendus. Donc forcément, s'ils dépensent plus en achetant plus de machines, ils vont forcément moins gagner puisqu'ils ont moins de ventes.
Hugo, vous pensez que vous n'êtes pas assez rémunéré aujourd'hui ?
Je pense que moi, personnellement, je ne suis pas assez rémunéré, c'est sûr, mais qu'il y a des choix à faire entre le milieu pharmaceutique et la biodiversité. Au jour d'aujourd'hui, la biodiversité, on lui consacre un budget de 31 milliards d'euros par an. Ce qui serait nécessaire serait un budget de 335 milliards d'euros par an. En comparaison, c'est énorme. Le budget des militaires additionnés des pays du monde, c'est égal à 5 fois supérieur. Donc on peut parler de 1500 milliards d'euros par an en termes militaires. Donc je pense qu'il y a des choix à faire et la nature est primordiale pour la vie et pour le futur. Et donc, je pense que voilà, ce serait nécessaire de faire des choix.
Mais vous pensez que la nature est importante juste parce que vous venez d'une tribu brésilienne ?
Vous venez de dire qu'il faut à tout prix préserver la nature, mais par ce côté, j'entends que si on préserve la nature, on ne va pas non plus prendre aucune plante. Et je pense que ça va être un problème aussi pour le laboratoire si on ne préserve aucune plantation et que du coup, s'il n'y a pas de plantation, pas de médicaments, pas de recherche et donc pas de médicaments à mes malades. Donc je suis d'accord pour préserver la nature, mais il faut quand même, on peut prendre, je pense, une bonne partie en utilisant les bons moyens pour pouvoir les utiliser.
Pour vous, Chloé, c'est quoi le plus important ?
Le plus important est de soigner les personnes et pour qu'ils vivent en bonne santé. Mais je suis d'accord aussi qu'il faut reconnaître que sans les plantes et sans tout ça, les médicaments seraient pas aussi. Enfin, on pourrait pas en créer autant.
Je vous rappelle que votre augmentation réduit considérablement le nombre potentiel d'acheteurs. Vous avez de moins en moins de clients. Si vous continuez autant à détruire les milieux naturels, vous ne pourrez plus disposer autant de ressources dans l'avenir.
Oui, mais je reviens sur votre exemple du daraprime. C'est un très peu de nombre de patients qui sont soignés par ce traitement. Et donc, pour continuer à financer les recherches qu'il y a derrière, il faut quand même que le prix soit élevé, parce qu'étant donné que peu de personnes le prennent, il faut quand même qu'on puisse financer les recherches derrière.
Mais où vous êtes revenu ? Mais justement, il y a de plus en plus de personnes, elles ne se déclarent peut-être pas. Peut-être qu'elles ont conscience que le médicament est tellement cher qu'elles ne veulent pas se déclarer.
Et à ce moment-là, elles ne se soignent pas, c'est ça ?
Mais non, elles ne se soignent pas, elles ne se déclarent pas parce que, enfin, elles ne peuvent pas se payer le médicament. Ce serait impossible pour leurs moyens. Je suis sûre qu'il y a plein de. C'est comme il y en a plein de gens qui ont des maladies, mais ça ne sert à rien qu'elles se déclarent si elles ne peuvent pas acheter les médicaments ou se soigner avec les soins.
Bah après, pour se soigner, si on a vraiment envie de guérir, on est capable de mettre un certain prix dedans.
Ah non, ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des personnes pauvres dans n'importe quel pays qui ne peuvent pas se payer tous les médicaments. On le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui se déplacent, des médecins sans frontières qu'on appelle, qui sont obligés de se déplacer pour les soigner parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer et accéder aux soins.
Après, il y a des aides, des dons, des associations. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre pour aider les gens comme ça.
C'est vrai que vous pourriez peut-être réduire votre consommation au niveau des plantes qui peut vous coûter ce que je pense très cher, comme ça ne le coûte cher à nous, et de ce fait avoir des médicaments qui vous reviennent à des prix moins importants peut-être, et permettre aux malades de mieux se guérir.
Comment vous expliquez que les recherches soient aussi coûteuses?
Parce que pour trouver une nouvelle molécule et être sûr qu'elle soigne bien, et aussi surtout être sûr qu'il y ait moins d'effets secondaires, c'est surtout basé sur ça la recherche maintenant, pour que les médicaments aient de moins en moins d'effets secondaires et que les patients le prennent un peu mieux.
Et Madame Ève, vous dites que le daraprim coûte cher, mais si, par exemple, il y avait plus de personnes qui s'annonçaient être malades et avoir besoin de ce médicament, peut-être qu'il y aurait plus de recherches pour le breveter et, comme les médicaments pour le sida, le rendre moins cher pour les pays en développement.
Je suis totalement d'accord avec vous. Si on fondait des associations ou des sites internet pour inciter les gens à se déclarer s'ils sont malades ou s'ils ont besoin, qu'ils portent vraiment leurs problèmes pour qu'on puisse réagir, je pense que ce serait une très bonne solution de mettre en place des moyens pour pouvoir guérir ces malades.
Donc, pour vous trois, est-ce qu'on doit breveter la nature ou non ? Quelles sont vos réponses? Quelles sont vos solutions, vos idées?
Pour moi, tout d'abord, la nature n'est pas brevetable. Après, je pense qu'il y a une demi-mesure sur l'utilisation des plantes. Je pense qu'on peut trouver des arrangements avec les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir chacun voir son intérêt et pouvoir vivre normalement.
Pour moi, breveter ou pas la nature, en attendant, on doit reconnaître qu'elle est utile et qu'elle nous sert beaucoup dans l'invention de nouveaux médicaments, et on doit la reconnaître à sa juste valeur.
Les malades doivent vivre longtemps et avoir accès à tout type de médicaments. Le laboratoire doit bien évidemment aussi avoir sa part pour ne pas licencier son personnel et fermer. Et la tribu d'indigènes, le représentant, doit elle aussi pouvoir conserver et ne pas détruire toutes ses ressources. Les milieux naturels doivent être protégés et doivent le rester, quoi. Il faut concilier ces trois piliers pour obtenir un juste équilibre.
Ben, sur ce mot de fin, je pense que nous allons arrêter l'émission. Au revoir les amis.
Au revoir.
Merci à tous.